À toutes et tous et bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Le pire reste à venir. Le pire est qu'on ait fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées et bénévoles de nos deux antennes. Et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs. Au menu de cette émission du mardi 26 septembre 2017, nous reviendrons sur les manifestations qui ont lieu un peu partout depuis quelques temps maintenant contre la réforme du code du travail. On écoutera un échange avec le rappeur Virus, rappeur normand qui était en résidence au Tangram au Cube, pour être tout à fait précis, à Évreux la semaine passée. Ça donnera lieu à un bullet reportage que vous pourrez retrouver demain midi à partir de midi et demi sur l'antenne de Principe Actif, mais je vous en proposerai un petit extrait tout à l'heure. Et puis ce matin, m'accompagne en plateau le photographe Frédéric Grimaud. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et puis avec vous, on va notamment parler d'une expo et d'une conférence qui a lieu ce week-end, le 30 septembre, du côté des ventes. On prendra évidemment le temps d'en parler de votre parcours, de votre travail, puisque vous avez fait plusieurs séjours au Népal. Ce sera sans tout dévoiler tout de suite l'objet de cette expo et de cette conférence. Plusieurs voyages au Népal et évidemment, on prendra le temps d'en parler avec vous, mais aussi d'écouter quelques extraits sonores ici et là que vous avez capté lors de vos séjours au Népal. Le tout sera évidemment servi avec de la bonne humeur et du bon son. En tout cas, on l'espère. On écoute tout de suite un premier titre de Victor Démé et Femi Cuti. Merci d'être à l'écoute de Principe Actif et d'HDR.
Ala masa de bolo na e na de ah wala
Victor Démé et Femi Kuti, le morceau s'appelle Wolo Baya Gelema.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah, la like mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 99 points, évidemment, du côté de Rouen. Et maintenant, depuis cet été, sur le 95.9, l'autre station de Principe Actif dans le sud du département de l'Eure.
Oui, bonjour. Principe Actif, c'est en fait pour laisser une petite annonce, un événement qui va se dérouler le 29 à 21h au matin. Donc, je suis l'ancien bassiste des Ginger Orchestra. Ouais, vous allez me dire, c'est qui ce mec-là, tout le monde s'en fout. Mais, enfin bon, c'est le groupe 13 qui joue vendredi 29, 21h au Matari. Donc Elvis Jagger et groupe 13, venez nombreux, ça nous fera plaisir. Je vous fais des bises à tous, principe actif, auditeurs, auditrices, tout le monde quoi. Même ceux que j'aime pas. Ciao!
Voilà, n'hésitez surtout pas à vous saisir, à vous emparer de cette zone d'expression radiophonique qui est aussi la vôtre. Et pour ce faire, vous appelez le 02 32 62 57 32. Je le répète, 02 32 62 57 32. Vous nous laissez vos infos, vos coups de cœur, vos coups de gueule sur cette messagerie répondeur. Et on se fait un plaisir, évidemment, de diffuser vos messages à peu près à cette heure-ci dans cette émission. Je vous le disais au sommaire de cette émission, j'ai laissé traîner mon micro du côté de la manifestation qui avait lieu jeudi dernier du côté du Bel et Bas à Évreux, manifestation organisée contre la réforme du Code du Travail. Voici ce que j'y ai capté. Pourquoi vous manifestez ?
Bon, parce que je suis contre les ordonnances qui vont être éditées de façon complètement aléatoire. Et en définitive, il n'y a aucun jeu démocratique dans cette affaire, quoi. C'est uniquement le pouvoir d'une personne qui décide dans son coin. C'est royaliste.
Contre plusieurs choses, hein, déjà par rapport à la précarisation du contrat de travail, donc étant donné qu'on voit que les patrons ont de plus de facilité à licencier les personnes. Et c'est surtout pour mes enfants, surtout pour plus tard, parce qu'on a acquis pas mal de choses. Depuis, je crois que c'était 39, je crois. Enfin, je sais plus, 36, pardon. Et on arrive vraiment à une paupérisation du contrat de travail.
Bah parce que ça fait un petit moment que M. Macron met en place des choses sans concertation. Il impose des choses. Moi, je suis fonctionnaire. Le gel du point d'indice, le retour du jour de carence, tout ça, c'est vraiment inutile. Donc, voilà. Donc, ça fait la deuxième fois que je manifeste depuis début septembre. Et puis bah, s'il faut continuer, on continuera.
Pourquoi je manifeste ? Parce que d'abord j'ai des convictions syndicales et politiques, avec un gouvernement là, qui a affiché la couleur dès le départ, hein, c'est-à-dire qu'il poursuivait l'œuvre du précédent, c'est-à-dire la destruction du code du travail, puis qui a affiché aussi toute une série de contre-mesures à venir, hein, que ce soit sur les retraites, la sécurité sociale, la formation professionnelle, la liste est longue, les attaques dans tous les domaines. Donc pour nous c'est la continuité d'un combat hein, qui a été initié déjà contre la loi El Khomri et qui se poursuit maintenant. Maintenant, puisque la situation n'a pas changé, pire, il y a des dispositions qui sont prises là pour aller encore plus loin dans la remise en cause des droits collectifs. Quoi.
Alors, une fois pour le contre la casse du code du travail, et aussi parce que point de vue fonctionnaire, parce que nous sommes surtout éducation, parce qu'on nous baisse les salaires sans raison apparente, en nous prenant pratiquement 2%. En plus des 0,4 qu'on nous prend tous les mois pour nos retraites, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc voilà pourquoi je manifeste et mes collègues aussi.
Bon, tout simplement parce que là, ça a une remise en cause du code du travail et en fait, c'est pour encore faire reculer les droits des salariés, avantager un petit peu les patrons et il y a des choses aberrantes, quoi, l'augmentation encore du temps de travail, des choses comme ça. Et c'est important, quoi, parce que ça, c'est pour les enfants, pour l'avenir, et ça remet vraiment en cause tout ce que nos ancêtres ont fait dans le passé, quoi.
Est-ce que vous voulez compléter, madame ? Pourquoi vous manifestez ?
Pour ne pas perdre les acquis déjà durement acquis. Voilà, c'est la
Qu'est-ce
base.
Ce qu'il faudrait changer, soit dans les propositions de loi, ou modifier dans l'approche du gouvernement ?
Il faudrait changer le gouvernement. Tout bêtement, c'est des même tout de toute façon, tous ceux qui ont été élus aux députés là, c'est que des gens qui sont pour le patronat. Les gens ont voté sans savoir ce qui est exactement le programme et ça n'a rien donné, quoi. Ils ont tout donné un pouvoir à une seule personne qui le jeu démocratique est plus joué, quoi. Est plus joué du tout.
Oui, ce serait peut-être intéressant de revoir un petit peu pas mal de petites choses, mais surtout sur le contrat de travail en lui-même et le licenciement vraiment en priorité. Après, sur d'autres choses, l'APL, des choses comme ça, oui. Je pense qu'il y a des choses à refaire encore et à revoir. Et en concertation, parce que je pense que ça a été fait comme ça un peu aux dépens des personnes. Et bon, sans concertation, c'est vrai qu'on n'y arrivera jamais.
C'est un vaste domaine. Le problème, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas vraiment dans le milieu du travail, qui ne se rendent pas compte, que ce soit dans le public ou dans le privé, toutes les difficultés du travail, la souffrance au travail aussi, etc. Des gens qui sont surbookés, des gens qui ont beaucoup moins de boulot et qui, donc, du coup, s'ennuient. Enfin, bon, beaucoup de choses à faire, quoi. C'est beaucoup de choses, voilà.
Alors, je ne suis pas du tout dans une logique de chercher à amender un texte sur lequel, de toute façon, il n'y a aucun appui, aucune mesure favorable pour les salariés, hein, que ce soit du public comme du privé. Donc moi c'est la remise à plat de tout, qu'on rediscute après d'un nouveau code du travail, pourquoi pas, mais un code du travail dont on a toujours dit qu'il était trop volumineux, trop complexe, etc. Mais parce qu'il a été justement au fil du temps amendé, enrichi d'articles de dispositions complémentaires par le patronat, hein, qui ont par la multiplication de tous les contrats en tout genre, etc. Des contrats d'ailleurs toujours défavorables par rapport au CDI ou au CDD classique. Je serais favorable, disons, à une simplification, à un retour sur le code du travail tel qu'il existait dans les premières dispositions, quoi.
Déjà, plus d'écoute de la part du gouvernement, parce que là, les concertations, elles ont juste servi de... Allez, on va dire de... pincement. D'alibi. Mais tout ce qui a été avancé, notamment par la CGT... rien n'a été repris. Point de vue fonctionnaire, c'est bien gentil de nous casser du sucre sur le dos parce qu'on coûte cher, mais si on nous donnait les moyens de fonctionner, ça serait beaucoup mieux et la population s'en porterait encore mieux. Donc, faut prendre l'argent là où il est.
Merci.
Pas forcément sur les salaires des fonctionnaires.
Les modifications, au moins le dialogue. Qu'on ait tous notre mot à dire et qu'on puisse autour d'une table, tous... peser le pour et le contre des choses à modifier et non pas nous les imposer gravement comme ça.
Ouais, c'est exactement ça. Et puis effectivement, il y a peut-être sûrement plein de choses à faire, mais effectivement, en discuter ensemble, penser aussi au bien-être des salariés, parce que l'entreprise, malgré tout, si on veut être compétitif et que le salarié donne du sien, faut aussi qu'il y ait un juste retour et on n'est pas juste là pour trimer comme des fous et puis au final que ce soit toujours les mêmes sans mettre plein la poche quoi. Donc après on est conscient qu'il faille faire quelque chose pour les entreprises françaises etc. Mais après comme dit ma collègue là au niveau du avec un vrai dialogue quoi.
Dernière chose, qu'est-ce que vous pourriez espérer ou souhaiter à l'avenir ?
Un grand changement.
Qui passerait par quoi ?
Par un changement complet de la politique en France. Et que, disons, c'est ça, uniquement un changement de la politique en France, quoi. Du jeu politique en France. Que ce soit plus des nantis, des gens qui sont... Parce que même les syndicats, disons, les partis même un peu plus démocratiques sont quand même dirigés par une élite. Donc de toute façon, c'est toujours... Ils choisissent pour eux et pas pour les gens réellement. Ils n'en ont rien à foutre.
Pour la suite, que les mobilisations aillent de toute façon crescendo. Hein, l'image de toute façon du rejet général qu'il y a dans la population par rapport... à cette réforme du code du travail, mais aussi de toute façon à toutes celles que j'ai rappelées hein, à venir, il y a un rejet de cette politique d'austérité, que forcément le combat de la classe ouvrière puisse faire en sorte que le gouvernement recule et canne là, sur tous ces projets quoi.
Peut-être qu'on annule cette fameuse loi et qu'on fasse peut-être un référendum, pourquoi pas, mais qu'on puisse concerter les personnes et qu'on fasse vraiment une loi vraiment qui garantisse vraiment la sécurité des employés.
Bah déjà le retrait de cette loi qui est vraiment déjà qui aurait jamais dû exister, hein, la loi El Khomri. Franchement, on est parti de là. Donc c'est vrai que quand on est de gauche, on regrette quand même de voir que ce sont des gens de gauche qui sont partis de ça. Et puis, après, il faut de la concertation, il faut voir des gens qui ont des idées, je sais pas, il y a plein de choses certainement à faire, mais une concertation, c'est évident. Donc.
Alors, déjà, un code du travail juste, où c'est que c'est les salariés qui sont mis en priorité et non pas les patrons. Ensuite, pour les fonctionnaires, moins de mépris et plus de gratitude vis-à-vis de leur mission. Que ce soit tous les fonctionnaires, parce que on a beau dire bravo aux policiers, aux gendarmes et aux militaires à chaque fois qu'il y a des attentats, si dans la réalité on leur sort les moyens, ça sert à rien. Les profs, c'est pareil. On met les CP à 12, c'est formidable, diviser les classes par deux. Mais si à côté on nous donne pas les moyens d'apprendre mieux à lire, mieux à écrire. Et que ça se poursuit pas dans les années d'après, tout le bénéfice va être perdu. Donc c'est dommage. Voilà. Ensuite, il y a bien d'autres fonctionnaires. Je vais prendre toujours pareil, ça a un peu rapport avec l'école, mais dans les cantines scolaires, dans les garderies, on a de moins en moins de contrats aidés. Pas que je veuille du contrat aidé, mais s'ils pouvaient les remplacer plutôt que de les supprimer par des emplois statutaires, ça permettrait forcément de mieux fonctionner. Alors que là, il a supprimé des êtres humains, de la présence humaine, sans compenser. Donc à l'arrivée, on se retrouve avec moins d'adultes et plus d'enfants. Alors, ça fait ce que ça doit faire, ça engorge.
Ah bah qu'on arrive à se rassembler au fur et à mesure tous ensemble, tous les groupes de population concernés, et voilà, tous ensemble et non pas chacun dans son coin, et montrer qu'on est là et attirer les gens qui sont encore un petit peu dubitatifs ou qui n'osent pas, mais continuer et se rassembler encore plus massivement.
Ouais, tout à fait, que ça prenne plus d'ampleur et surtout de ne pas avoir l'impression que c'est un mouvement qui concerne qu'un secteur d'activité ou autre. Moi, j'ai un peu l'impression que le salarié en lui-même ne se rend pas compte que ça concerne tout le monde est touché, concerné par ces changements. Et que voilà, pour aujourd'hui, le salarié est bien content d'avoir ses 5 semaines de vacances, d'avoir ce temps de travail, ces choses-là dont il profite. Et en fait, on a l'impression que tous n'ont pas conscience que ça peut tout modifier. शिव शंकर जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान जय जय सुर नायक जन सुखदायक पण तपाल भगवंता रोध जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर मन जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंता अभिगत गोती तंग चरण पुनी तंग माया रहे तम कुंदा जही लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोहमन वृंदा निशिबासर ध्यावै गुण गण गावै जय अति सचितानंदा जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई.
Un chant sacré Shivaratri, si je prononce bien, que vous aviez semble-t-il capté lors d'un de vos séjours au Népal. Frédéric Grémaud, vous êtes photographe. Vous nous dites deux mots un petit peu de ce qu'on écoute là en fond, de ce qu'on vient d'écouter à l'instant.
Oui, alors c'est un chant effectivement. Donc j'ai pas son nom hein, parce que c'est un sadhu qui l'a chanté pendant la fête de la Shivaratri. C'est la fête de Shiva. Shiva, en fait, c'est le dieu suprême hindouiste dans l'hindouisme, je veux dire. C'est le dieu de la création. C'est celui aussi qui porte bonheur. Donc, pendant une nuit, tous les sadhus du Népal et parfois même de l'Inde, certains viennent même de l'Inde à pied pour cette grande fête. Donc, pendant une nuit, tout le monde fête ce dieu Shiva. Voilà, qui est le dieu suprême.
Pour resituer, si certains de nos auditeurs et auditrices prennent en cours cette émission ce matin, je suis avec Frédéric Grémaud, donc photographe, qui a fait plusieurs voyages au Népal. Il y a déjà eu pas mal de restitutions, de communications, ça a donné lieu à un livre, notamment il y a quelques mois déjà. Et ce week-end, vous organisez de nouveau une exposition et surtout une conférence autour de vos séjours au Népal. Ça se passe samedi, si je dis pas bêtises, le 30 septembre. Du côté des ventes, à côté d'Evreux, hein, pour ceux qui
sont
pas très loin.
Salle des fêtes des ventes, ouais, à partir de 18h.
Voilà, on va prendre le temps évidemment de parler de tout ça. J'en profite, hein, je vous prends un peu au dépourvu. Ouais. On a écouté juste avant ce chant sacré consacré à Shiva, un reportage sur les manifestations contre la réforme du code du travail et puis plus globalement les ordonnances gouvernementales. Une réaction éventuelle. Vous, en tant que photographe ou plus globalement en tant que simple citoyen.
Oui, bah en fait, c'est vrai que ça traîne hein, cette affaire-là. On n'a pas eu beaucoup d'infos. Il y a quelques mois, c'est un peu flou. De toute façon, il faut de la concertation, il faut de la discussion. On peut pas tout faire dans son coin. Moi, je sais que donner trop de pouvoir au patron, ça crée de la précarité et de l'insécurité. Donc, c'est pas forcément bon pour le moral des citoyens. Bon, par contre, moi, je suis photographe indépendant. Je suis en micro-entreprise. Je sais que en micro-entreprise et en auto-entreprise, les plafonds du chiffre d'affaires vont augmenter. Donc, ça, je trouve que c'est quand
positif,
même une bonne chose.
C'est positif pour voilà. Pour le genre d'initiative.
Après, il faut faire ça. De manière intelligente, en concertation avec tout le monde.
Pour revenir sur votre parcours de photographe, parce que vous êtes plutôt bien connu sur Évreux les alentours, en tout cas, voilà, il y a déjà eu un certain nombre d'expositions, on a déjà pu retrouver, et notamment sur l'antenne de la radio Principe Actif, on a déjà pu se croiser pas mal de fois, mais il y en a qui vous découvrent sans doute un peu ce matin. En quelques mots, revenir sur votre parcours de photographe, quand et comment toute cette histoire a commencé et ce qui vous a donné envie de devenir photographe.
Ouais, alors ben la photographie, elle est arrivée en 97. J'étais en IUT de biologie. J'étais destiné à faire des analyses agroalimentaires, voilà, dans un labo. Et puis mon grand-père et ma mère faisaient de l'argentique hein, avec des pellicules à l'ancienne en noir et blanc. Donc j'ai toujours vu voilà la famille du côté de ma mère avec des appareils photo. Mais la passion est arrivée assez tard hein. Du coup comme je disais en 97 hein, j'avais 24-25 ans. Mais elle est arrivée comme ça, d'un coup. Voilà, je me suis dit, tiens, j'ai assez d'économies pour acheter un appareil photo, et hop, c'était parti.
Ça a toujours coûté relativement cher, les appareils photo. Est-ce que c'est moins cher maintenant, juste comme ça, pour notamment pour les amateurs ou ceux qui se...
Ça
qui
dépend
se
de ce qu'on veut.
Ouais. Il y a les petits compacts numériques, ça coûte, ouais, c'est abordable pour tout le monde.
Ils ont fait d'énormes progrès. Mmh. Et il y a des appareils avec une très bonne qualité, avec des meilleurs capteurs qui captent mieux en basse lumière. Ouais, franchement. Non, on peut s'en sortir avec un petit appareil pas très cher, même avec un smartphone. Ça fait des super photos.
Ça a fait d'énormes progrès. Hein.
Super mode macro.
Et est-ce que justement, il n'y a pas à un moment donné cette concurrence-là potentielle des amateurs, entre guillemets, notamment avec les smartphones, où maintenant on a tous un appareil photo de plutôt, en effet, de très bonne facture dans la poche. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment que ça prenne le pas justement sur des gens comme vous qui sont photographes professionnels, qui vivent de ce travail-là?
Non, pas en photographie professionnelle, en entreprise, en architecture ou des choses comme ça. Non, je dirais que le smartphone, oui, peut peut-être pas concurrencer, mais aider dans certaines zones de conflit, par exemple, dans des zones de tension.
Oui, parce que c'est beaucoup plus discret.
Dans certains pays, c'est plus discret. La qualité s'est beaucoup améliorée, c'est énormément améliorée, même, je dirais. Après la concurrence, j'avais entendu dire un jour que l'armée travaillait sur un appareil photo qui pouvait recadrer l'image grand angle à l'infini. Mm-hmm. Ça veut dire que sur un terrain de foot, si on se trouve à 100 mètres et qu'on a une petite fourmi d'un joueur, là, un joueur tout petit, on zoome, mm-hmm. on peut arriver sur son visage. Mm-hmm. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un fake, j'en sais rien. Mais là, le jour où on arrivera là, ce sera étrange au niveau de l'image.
Avant de revenir sur vos expériences au Népal, parce qu'on le disait, il y a eu plusieurs séjours et un long travail et on peut le dire une histoire d'amour quelque part avec ce pays-là, le Népal. Ah ouais. Juste pour compléter sur votre parcours de photographe, quel genre de travaux avant ces expériences au Népal vous faisiez? Est-ce que vous travailliez justement pour des entreprises, certains clients un peu particuliers, ou il y avait déjà cette envie de quel était un peu dans le périmètre dans lequel vous travaillez?
Alors, après mon IUT, en fait, mon but, c'était de voyager. Et je pensais que la photographie m'aiderait dans cette quête, on va dire. Je me suis formé tout seul. Et puis, au bout de 3 ans, je suis rentré au Conseil Général, au service communication, en tant que photographe et infographiste. Et à partir de là, en fait, tout est allé très vite. Moi, j'étais plutôt, au départ, porté sur la photographie de paysage, la photographie de plans rapprochés, de matière, des écorces, des peintures écaillées sur les murs, des choses comme ça.
Donc du travail de précision,
du détail.
Ouais, du détail, dirais. Voilà, c'est ça.
Ouais.
C'est ça le mot que je cherchais.
Texture, matière, etc. Et puis en fait, le Conseil Général m'a complètement ouvert sur l'autre. Et donc à partir de là, j'ai commencé à voyager aussi pendant mes congés. Et voilà, en fait, je me suis vraiment tourné vers les autres, vers autrui, mais pas les stars, les gens dont on parle peu.
Les gens ordinaires, comme on aime à dire sur l'antenne de
Principe. Mais tu vois, j'ai une petite anecdote. Mon père, quand j'étais gamin, après la messe, il me donnait une pièce et j'allais la donner au SDF, tu vois. Donc ça, un de mes premiers sujets humains, c'est les SDF aussi. Donc il n'y a pas de hasard, je pense. C'est l'inconscient qui revient.
Et cette démarche d'aller vers l'autre, c'était aussi bien mettre en valeur l'autre, donc quelque part venir en aide ou en tout cas faire avec l'autre. Mais j'imagine que si pour vous, c'est enrichissant. C'est un développement aussi personnel quelque part.
Ouais, c'est incroyable. Toute personne a quelque chose à dire de hyper intéressant. Il y a des valeurs, des leçons qui sont données. Moi, j'ai rencontré un SDF à Paris qui vivait dans son hamac comme quand il était au Venezuela, et c'est un grand donneur de leçons, quoi. C'était assez fabuleux.
Pour revenir sur un petit détail technique, vous disiez que vous aviez pratiqué aussi l'infographie. Est-ce que c'est indispensable quand on est photographe de retraiter les images?
Ah oui, alors il y a retouche et infographie.
Oui, infographie, on va plutôt sur la conception, conception d'affiche.
La retouche avec parcimonie. Ça dépend du but. Je sais que dans le photoreportage, on peut pas retoucher, on peut pas assombrir un ciel à l'extrême dans une zone de conflit, par exemple. Je reviens toujours à ça parce que je me documente pas mal. Moi, j'ai pas du tout envie d'en faire. Mais c'est des exemples concrets. On peut pas, pour de l'information publique, transformer l'image.
C'est ça, en fait, le seuil à pas franchir. C'est-à-dire que pour un travail artistique et personnel, on peut se permettre de retoucher à son gré l'image. Évidemment, à l'inverse, quand on est sur de l'information, de la communication, du reportage, vraiment un travail journalistique, là, il y a une limite à pas franchir pour rester dans les clous de l'authenticité du cliché.
C'est ça. Mais même pour une carte postale, le photographe qui veut éditer des cartes postales et les vendre, s'il enlève un poteau électrique, il peut avoir des soucis. Alors, j'étais de 2002 à 2008 au Conseil Général, et après, je me suis mis indépendant. Et donc là, je fais beaucoup de choses. Je fais de l'architecture, de l'entreprise, de l'institutionnel, des sujets personnels, un petit peu de mariage, un petit peu de ceci, de cela. Des ateliers aussi avec des écoles, des collèges, IUT, etc.
C'est important.
Moi, j'aime bien cette
notion de transmission aux autres.
Transmission, ouais. Et puis la variété de ce que je fais. Moi, je pourrais pas faire que de la mode, que de la politique, non. Non.
Faut diversifier son travail. Ouais. On va revenir sur, on va parler très concrètement de cette conférence et exposition que vous organisez ce week-end au Népal, et on va d'abord revenir sur votre histoire d'amour, je le disais, avec le Népal. Mais vous m'avez ramené plusieurs sons. On n'a évidemment pas le temps de tout écouter ce matin, mais au moins un extrait d'ambiance de son de rue. Je crois que ça a été capté à Katmandou. On écoute ça tout de suite. Okay. Voilà, des enregistrements que vous m'avez ramenés ce matin, Frédéric Grimaud, je le rappelle, photographe, avec ce lien très fort avec le Népal. Dans ce qu'on vient d'écouter, on sent qu'il y a de la vie, il se passe des choses. On a même à la fin une sorte de rap
moderne.
Ouais, un truc très, très, très moderne. Voilà, on n'a pas forcément le temps d'énormément développer, mais qu'est-ce qui vous a interpellé, percuté, transformé dans vos séjours au Népal? Qu'est-ce que vous y avez découvert et qui a suscité l'envie chez vous d'y retourner, de consacrer une bonne partie de votre temps et de votre vie à ce pays et aux gens que vous y avez croisés?
Alors moi, ce que je pourrais, s'il y avait un mot là que je dirais pour parler du Népal, ce serait sérénité. J'ai toujours été attiré par la montagne. Je suis pas un grand marcheur, je suis pas alpiniste, mais je suis pas un grand trekker non plus. Mais j'ai toujours adoré la montagne, les ruisseaux, les arbres, les collines. Et donc après un séjour en Inde, que j'ai apprécié beaucoup plus dans le nord, dans les montagnes, que dans le Rajasthan. Une amie m'a parlé du Népal parce qu'elle aidait un bidonville près de Katmandou. Je me suis dit, je tente le Népal. Alors c'était juste à la fin de la guerre civile, 96-2006. Moi, j'y suis allé en 2007. Il y avait encore des zones de conflit dans certains endroits. On m'a dit, fais attention, je serai toi, je n'irai pas. Mais il y a toujours eu du tourisme, même pendant le conflit entre les communistes maoïstes et l'armée gouvernementale pour rétablir un certain ordre, parce que en fait c'était toujours les mêmes au pouvoir, donc y en a qui se sont insurgés, quoi. Et voilà, donc je suis parti, et puis tout de suite ça a été vraiment le coup de foudre, une beauté dans Katmandou, dans la place du centre historique, avec les temples qui se sont effondrés maintenant, il y a 2 ans avec le séisme. Mais c'était vraiment magique, quoi. Des temples en bois, avec de la mousse.
vous parliez du séisme, ça a été, j'imagine, un événement, un élément terrible pour les Népalais. Comment vous avez vécu ça au gré des rencontres des gens que vous faisiez là-bas? Comment c'est ressenti là-bas? Et puis peut-être plus globalement, le mode de vie des Népalais au-delà du séisme, et de comment ils s'en sont remis, parce qu'on s'en remet difficilement, mais on s'en remet. Le mode de vie un peu des Népalais, qu'est-ce qui vous a marqué dans leur art de vivre?
L'acceptation, je dirais. Je parlais tout à l'heure des temples là qui étaient super jolis, mais c'est aussi un peuple, c'est une ethnie, c'est une manière de vivre, de penser, d'être au jour le jour avec autrui aussi. Ça nous remet à notre place en fait quand on a une expérience avec ces gens-là. C'est des gens qui n'ont rien. Le Népal, c'est l'un des 10 pays les plus pauvres au monde, et encore plus maintenant avec le séisme. Moi, je dirais que pour eux c'est pas facile, parce qu'ils ont vécu, ils pouvaient plus vivre dans leur maison, parce que soit elle était détruite, soit fissurée, donc très fragilisée, donc revenir dedans avec des étages, c'était pas possible. Donc tout le monde vivait dans des tentes, des petits abris. Le travail, il y en avait quasiment plus, parce que les places étaient investies des tentes, alors que dessus, chaque jour, il y avait des petits marchands, le marché, des petits objets d'art, etc., d'artisanat. Donc ça a été très très compliqué. Après, ils acceptent, ils en rient même du séisme. Quand j'y étais, il y avait des petites secousses, et tout de suite, ils avaient le sourire, quoi. C'est incroyable.
Pour en revenir à votre travail et à votre lien avec le Népal, si je comprends bien, notamment par rapport à la conférence et ce que vous organisez ce week-end du côté des ventes, rappelle, c'est ce samedi 30 septembre, il y a ce lien aussi de rendre un petit peu ce qu'on vous a donné là-bas. Vous avez, si j'ai bien suivi, décidé de le rendre un peu de façon monétaire, parce que vous disiez, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Il y a d'énormes besoins, on l'imagine là-bas. C'est ça une partie de ce que vous récoltez au travers de votre travail de photographe, financièrement, et rebasculer là-bas. Vous nous en dites un peu plus comment ça se passe.
Alors les gens là-bas me disaient qu'ils se sentaient trahis par leurs amis étrangers touristes, parce qu'ils le donnaient à des grandes ONG, alors que les villages ont encore de réels besoins quotidiens. En postant mes photos sur internet quand j'y étais, donc après le séisme, après le 25 avril 2015, un ami, donc c'est Didier Roubinoff, qui m'avait conseillé de faire, enfin qui m'avait proposé de faire un livre, et je me suis dit, tiens, pas bête, j'y suis allé 4 fois en tout, je vais redonner les bénéfices. Voilà ce que je me suis dit, et le livre s'est fait donc en 1 an et 3 mois. Donc je redonne tous les bénéfices du livre pour deux ONG, hein, qui, enfin une association française et une ONG népalaise, une petite que je connais bien. Et donc cette conférence, voilà, elle tourne autour de ce projet-là. Alors effectivement, l'entrée est payante à 8 €, mais il y a l'exposition, la vidéoconférence, donc avec des photos, du son. Des groupes de musique de Katmandou, mais on va préparer aussi un repas traditionnel népalais après. Donc il y a le dal bhat, c'est le riz avec la soupe de lentilles, avec en entrée des concombres avec du sel, des épices, un yaourt à la fin, du thé. Voilà, ça va être vraiment sympa.
C'est important d'avoir ce lien-là avec les choses essentielles, notamment de la nourriture. Je dis souvent que, et puis on n'est pas le seul, on partage un peu ça sur Principe Actif, qu'un des premiers vecteurs d'échange entre les peuples, quand on parle pas la même langue, quand on se connaît pas, c'est la musique, mais c'est aussi et surtout la cuisine. C'est important de garder ce lien-là avec la gastronomie.
C'est un moyen d'échange en plus. C'est un moyen d'échange. Tu vois, je suis allé dans le camp qui s'appelle le Tudikal dans Katmandou. C'est le terrain de foot, en fait, le stade de Katmandou. Et voilà, je marchais, je faisais des photos, et puis à un moment donné, on m'appelle et on m'offre le repas, quoi. Donc le riz, le thé, les petits champignons frits, tout ça sous une tente, alors qu'ils n'avaient plus de chez eux. C'est fou. Et on a échangé comme ça, comme on pouvait, parce qu'ils ne parlent pas beaucoup anglais, moi je ne parle pas népalais. Mais voilà, c'était un moment chaleureux et de partage. Ouais.
Vous en avez parlé de ce qu'on retrouvait ce samedi du côté des ventes, samedi 30 septembre. À partir de quelle heure? On avait dit 18 h, c'est
18
ça?
18 h, et donc oui, je remercie l'association AVI des ventes, AVI, A-V-I-E, qui organise tout ça. Et avant qu'on... j'en parlerai à la fin, j'aurai un petit mot quand même rapidement.
On revient très concrètement, même si vous l'avez abordé, on va retrouver une partie de vos travaux sous forme d'exposition. Et puis il y a cette vidéoconférence où vous l'avez dit, où on retrouvera du son, des images, à venir découvrir. Avant qu'on se quitte et de vous laisser le mot de la fin, puisque vous aviez des choses à placer, Frédéric Grimaud, en termes d'infos pratiques, que ce soit aussi bien sur cette conférence que plus globalement sur votre travail, Frédéric Grimaud, et notamment en lien avec le Népal, et puis aussi ce livre dont on a parlé, ce qu'on trouve encore.
Oui,
On peut encore se le procurer.
À Évreux, Cora, chez Gilbert.
Gilbert Joseph, ouais.
Voilà, la librairie, sinon en direct aussi.
Ouais, faut venir vous voir, on pourra encore se le procurer samedi.
Avec dédicace.
Ouais, en dédicace, voilà. Et globalement, ces infos pratiques sur la conférence, et puis globalement sur votre travail en lien avec le Népal notamment, où est-ce qu'on retrouve tout ça sur Internet?
Il y a un événement Facebook. Sur mon Facebook Frédéric Grimaud, sinon sur mon site www.frédéric-grimaud.com. Et puis avant de se quitter, donc je remercie Principe Actif. J'ai une pensée toute particulière au Mexique qui a subi des séismes. Là, si vous voulez faire des dons, vous me contactez parce que c'est important aussi. Je pense à eux. Merci.
Eh bien, merci à vous, Frédéric Grimaud, d'être passé par nos micros ce matin. On rappelle évidemment, on peut découvrir ou redécouvrir ou se tenir au jus de votre travail, notamment ce week-end à partir de 18 h dans la salle des fêtes des ventes.
Voilà, c'est ça.
Ce samedi 30 septembre, et découvrir tout un tas de choses autour de votre travail et autour de vos séjours au Népal. On se quitte avec un des petits sons que vous m'aviez ramené ce matin, un chant de mamie. Dans les rues de Katmandou.
Dans la rue,
voilà.
Je les ai enregistrés comme ça à l'arrache.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé juste en un mot. Vous êtes parti comment pour enregistrer les sons? Vous aviez quoi comme matériel?
Un petit zoom H4N, enfin petit. Voilà. Quand on a du matos, c'est gros, mais
oui, c'est toujours très lourd à porter dans les montagnes.
Ouais.
Merci à vous, Frédéric Grémaud.
Merci.
On s'écoute un petit chant des mamies que vous nous aviez ramené ce matin.
Mamie.
Je vous l'annonçais au menu de cette émission, le rappeur normand, le rappeur tout court, il n'y a pas forcément besoin de préciser qu'il est régional de l'étape, mais en tout cas le rappeur Virus, qu'on connaît bien sur les antennes de Principe Actif et d'HDR, était en résidence la semaine passée du côté du Cube, au Tangram à Évreux. Ça a donné lieu à une très longue rencontre que vous pourrez écouter dans son intégralité demain à 12h30 sur l'antenne de Principe Actif. Et je vous propose un petit extrait. Je lui ai demandé notamment comment s'était passé sa rencontre avec l'œuvre du poète Jeanne Rictus, obscur poète de la misère et anarchiste de la fin du 19e, début 20e, dont il a repris tout un recueil de poèmes qui s'appelait Le Soliloque du Pauvre, qui est à retrouver chez Rayon du Fond. Voilà, comment s'est passée un petit peu la rencontre entre Virus et Jeanne Rictus?
Mais non, la rencontre, en tout cas la découverte du texte, ça a été indirectement par Oxmo. Dans le sens où, quand j'ai vu à un moment qu'il éditait un recueil de textes qui s'appelle Mine de Cristal, où en fait c'est ses textes qui sont dedans, ben moi, hop, ça m'a tiqué dans le sens où ça m'interpelle, moi, si tu veux, dès que t'as un mec du Peura qui va explorer d'autres champs, en fait. Parce que je vois pas pourquoi un mec du Peura, il doit faire que ça, tu vois. Et en fait, même pas, c'est que quand tu sais que à partir du moment où tu sais que ta racine ou bien ton kiff le principal, tu vois, parce que par rapport, enfin, tu vois, dans les ateliers, je vais pas faire un concert, moi, dans l'atelier, tu vois, que c'est les mots, tu vois, donc je me dis, le but, c'est pas de se restreindre à qu'une seule forme de, enfin, tu vois, j'ai découvert que l'écriture, ça pouvait être infini, tu vois, un film, ça s'écrit, un film, tu vois, des dialogues, il y a plein de trucs à écrire, en fait. Et du coup, bref, ça m'a interpellé, hop, j'ai été voir ce que c'était que ce petit recueil de textes, tu vois. Et qui vient briser un peu les codes, en fait, un petit peu, tu vois. Et du coup, en naviguant un peu, en regardant, du coup, bah, c'est toujours, tu sais, la curiosité, c'est-à-dire que tac, après tu vois que c'est édité par une maison d'édition, tu regardes ce qu'il y a d'autre dans cette maison d'édition, et je tombe sur le titre, Les Soliloques du Pauvre, tu vois. Et direct aussi le fait que le nom, il soit en, tu sais, les trucs en us, tu vois, il est pas, c'est rare, tu sais, son nom, il m'a interpellé aussi, tu vois. Jean Rictus, tu vois, c'est quand même un blaze, moi je trouve que ça défonce. Et du coup, Les Soliloques du Pauvre, tu vois. Et moi, tout de suite, bam, tu sais, j'ai pensé au soliloque, Soliloquy of Chaos de Gangstar. En fait, c'était bizarre. Déjà, le nom, le titre, j'ai dit, oh. Et puis, en fait, tac, j'ai vu que c'était de la poésie, puis j'ai ouvert, et puis j'ai commencé à lire le texte, j'ai dit, oh putain, la tarte dans la gueule. Et puis surtout, pareil, tu vois, un mec qui vient briser les codes, en fait, de la poésie, tu vois. Parce qu'il utilise un certain langage. Tu vois, l'octosyllabe, il utilise beaucoup sa ponctuation, elle est incroyable. Et du coup, forcément, bah voilà, encore un gars qui vient briser des règles, en fait, tu vois.
C'est ça qui t'a parlé aussi de faire exploser les codes.
Dans la forme, et après, dans le fond, bah, moi, ça m'a parlé direct, tu vois.
On le classe, alors je sais pas qui on d'ailleurs, mais moi j'ai lu des trucs vite fait, notamment après avoir découvert le projet, poète anarchiste, poète de la misère. Moi j'ai surtout l'impression, comment toi tu le vois, cet artiste-là, ce poète?
En fait, après il y en a d'autres qui ont dit que c'était le dernier poète catholique, il y en a qui ont dit, enfin tu sais, après c'est toujours la même chose en fait. C'est ok, quelle étiquette? Mais comment tu peux mettre une étiquette sur un mec qui a une pensée aussi complexe ou qui a morflé, en fait? Je pense que à partir du moment où quelqu'un a vraiment eu mal, tu peux plus l'étiqueter, tu vois. C'est tu peux peut-être aller à la limite, hein, mais même pas, quoi, tu vois, tu peux pas étiqueter quelqu'un, mais pourtant ici c'est la règle, quoi. C'est, faut trouver une case où on va te mettre. Donc tu deviens virus le rappeur, tu vois. Par exemple, tu vois. Ou et encore ça va, tu vois, le rappeur c'est vague, c'est vaste. Mais alors là, c'est le poète, mais il est un peu tout ça en fait. Alors moi, ce qui m'a parlé, il y a des facettes de lui qui m'ont plus parlé que d'autres. La facette anarchiste m'a plus parlé que la facette catholique, entre guillemets. Parce qu'il y a un rapport, mais c'est d'époque, en fait. C'est des trucs d'époque, parce qu'à ce moment-là, les courants anarchistes, ils étaient dans la bombe, quoi. Ils étaient dans la bombe, donc c'était un truc d'époque. Lui, il était très proche d'eux. Il était, d'une certaine façon, il les représentait. C'est comme si, pour moi, il mettait un peu sa discipline au service de ces idées-là, tu vois. Pour moi, c'est un gars qui parle beaucoup d'amour, tu vois. C'est un gars qui parle beaucoup d'injustice. C'est un gars qui est sur les trucs les plus basiques, en fait. Pour moi, il n'y a rien de... Enfin, pour moi, c'est humain, mais à 1000%, en fait. Donc, c'est pas évident de dire comment toi, tu le vois, parce que moi, je le vois comme un mec qui a souffert. Et dont la souffrance n'a pas eu raison, si tu veux, de sa réflexion. Tu vois, c'est un gars qui a vécu dans un état de misère fort. Mais son malheur, si tu veux, c'est qu'il a toujours été, on pourrait dire, intelligent ou peu importe, tu vois, mais conscient et en tout cas lucide et dans la cogite, tu vois, dans la cervelle. C'est un homme de cervelle. C'est comme ça que je vois, moi.
Il y a une dimension très politique, éminemment politique dans son travail, que toi tu reprends à ton compte sur ce projet-là, dans l'édition des Soliloques du Pauvre. Est-ce que toi-même tu as une dimension politique assumée ou qui s'assume au fur et à mesure des années, voilà, quelque part, est-ce que tu te politises ou est-ce que tu as toujours été avec des idées comme ça, enfin, comment toi tu vois ton propre regard et au travers de ce projet-là en particulier?
Bah moi déjà je pense que tous les un micro fait de la politique malgré lui, c'est-à-dire que là t'es en train d'en faire pour moi, tu vois. Après le truc c'est que déjà moi là où je me suis certainement retrouvé c'est que lui il te dit justement qu'il attend plus rien de la politique en fait, hein, tu vois. Que les politiciens pour redorer leur blason, pour gagner en popularité, bah, le meilleur moyen, c'est de chialer sur la pauvreté. Truc, tu regardes à chaque élection, c'est toujours le cas. Tu vois ce que je veux dire? Les sujets des minima sociaux, de la misère, en fait, ou des SDF, ou tous les sujets miséreux, ils reviennent à chaque élection. Chaque prétendant à l'élection doit, de toute façon, faire genre, pendant ce temps-là, que on comprend la misère des gens. Donc lui, il te dit la politique, on se fout d'une putain la politique. C'est quand il te parle, qui dit ces pantins noirs et leur chiquet. On sait que tout ça c'est des pratiques, c'est des. On sait que tout ça c'est des magouilles, quoi. On sait que tout ça. Et moi, je viens d'un truc. Moi, je viens de ça, tu vois. Ouais, c'est, tu vois, le truc un peu comment dire. Une pensée un peu ouvrière en fait, dans le sens de ah, de toute façon c'est des conneries tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est, tu vois, tout ça. Ben en fait moi c'est ça ma position politique à la base, tu vois. Donc moi j'ai, enfin tu vois, j'ai jamais été sensibilisé par le moindre personnage politique, mais jamais, tu vois, à l'échelle nationale ou même locale, tu vois. À la base le maire il nique sa mère, tu vois. Déjà. Et ça, c'est des trucs, tu vois, c'est des classiques. Mais c'est des vrais classiques. Parce que, ouais, le maire, nique ta mère, le maire. C'est la base, ça, tu vois. Parce que quand t'es gamin, t'as envie de jouer au foot. Et au fait, bah, c'est compliqué. Tu vois, parce qu'en fait, tu dis, vas-y, fais quelque chose. Donc toi, t'escalades le truc pour aller jouer au foot. T'escalades des grillages. C'est pas normal d'escalader des grillages, par exemple. Là, je te parle de mon cas. C'est pas normal d'escalader un grillage pour jouer, taper dans un ballon, tu vois. Là où derrière, celui qui par exemple voulait faire du skate, putain, il avait une sacrée rampe, tu vois. Donc tu sais, il y a un truc, déjà, à l'échelle d'un gamin localement, déjà c'est niqué. Enfin, le regard est niqué. Après, quand tu grandis, tu prends peut-être une conscience un peu plus politique, dans le sens où tu te rends compte que tu en fais partie. Enfin, tu vois, que tu fais partie du système, en fait, que tu le veuilles ou non. Même quand t'es en marge, en fait, la marge fait partie du truc, tu vois, de la page, en fait. Et c'est là que tu peux pas t'inventer, puis ça serait prétentieux de dire que t'es pas tout concerné, en fait, tu vois. Donc, tu fais partie du truc, mais... moi, moi, j'ai pas l'impression de me politiser. Par contre, ça me fait plaisir quand d'avoir... tu vois, ses mots à lui, par exemple, sont simples sur ce sujet-là, je trouve. Et puis moi, la façon dont ils viennent dans ma bouche, pour moi, c'est naturel. Parce que je pense que c'est le même point de vue, quoi, tout simplement, tu vois. Je pense, hein.
Impression de promenade. Impression de plomb de promenade. Impression. Impression de promenade. Impression de promenade.
Quand je passe triste et noir, y'a de quoi rire. Faut voir rentrer les boutiquiers, les yeux durs, la gueule en tirelire, dans leur comptoir comme des banquiers. J'ai l'air luxe et irrésistible, ils se cavalent, ils ont peur de moi, peur que je leur chope leur comestible. Peur pour leur femme, pour je ne sais quoi, leur conscience dit, tu te soignes les tripes, tu te les bourres à t'en étouffer. Ben non, v'là un cas pas bouffé, alors dame, ils me prennent en grippe. Alors dame, ils me prennent en grippe. Y'a pas, mon spectre les embarrasse. Ça leur donne comme d'air mort. Des fois je plaque ma fiole à leur glace et ils deviennent livides comme des morts. Du coup malgré leur chair de poule, ils se jettent sur la porte en hurlant. Faut voir comme ils ameutent la foule pendant que Bibi fout le camp. Avez-vous vu ce misérable, cet individu équivoque, ce pouilleux, ce voleur en loque qui nous regarde écrouté à table. Ma parole, on n'est plus chez soi, on peut plus digérer tranquille. On paye l'impôt, y'a des lois, qu'est-ce qu'ils font les sergents de ville. J'suis loin que je les entends encore, le vent d'hiver m'apporte leur cri aigre. Ils piaillent comme à Noël des porcs, comme des chiens gras sur un chien maigre. Pendant ce temps moi je file en silence, car j'aime pas la publicité. Oh je connais leur état de santé, ils me feraient foutre en clou par prudence. Comme ça au moins j'ai le bénéfice de me répéter en liberté, de mollus sur les édifices. Égalité, fraternité, égalité, fraternité, égalité. Souvent j'ai pas d'autre nourriture, c'est le pain de l'esprit, disent les gourmets. Bah l'homme est un muf par nature, et la nature changera jamais. Car y'a des prophètes, des penseurs qu'on cherchait à changer l'homme. Quoi qu'ils ont fait en somme, de ce qu'il a de faire qui nomme son cœur. Rien de rien, même en tapant dessus, ou en le prenant par la tendresse. Comme l'a fait l'autre Seigneur Jésus, qui s'est vraiment trompé d'adresse. Aussi quand on a lu l'histoire, ceux qu'on voulu améliorer le genre humain, on les traite de quoi, on voudrait bien les exécrer. On réfléchit, on a envie de beugler tout seul, miséré. Puis on se dit ben quoi c'est la vie, y'a rien à faire, y'a qu'à pleurer. On réfléchit, puis on se dit ben quoi c'est la vie, y'a rien à faire, y'a qu'à pleurer.
Le rappeur Virus qui était donc en résidence au Tangram, au Cube à Évreux la semaine passée. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cet échange que j'ai eu avec lui demain midi, midi et demi sur l'antenne de Principe Actif dans Bulle et Reportage. Ça donnera lieu évidemment à un podcast pour retrouver tout ça sur les internets. On va se quitter en vous annonçant le programme du jour sur nos deux antennes Principe Actif et HDR, en commençant par nos amis de Radio HDR du coup du côté de Rouen. À partir de 9h30, vous retrouverez la Bulle 10h midi, Cafro en rediff, une nouvelle bulle qui part à 13h30, Une autre qui part à 16h. Le Blabla Mix, 17h, 18h, programme commun aux deux antennes, vous en avez l'habitude. L'Esprit de l'Escalier, 19h, 20h. Kumikata Station, 20h, 22h. Et vous terminez la soirée avec DJ Academy de 22h à 23h30. Voilà pour l'antenne du 99. En ce qui concerne le 102.4 et le 95.9, dans quelques instants, ce sera le journal Flash RFI Monde. Vous le retrouverez également à midi. Ce midi, midi et demi, midi 45, vous retrouverez L'Oiseau Délire, émission consacrée à la littérature enfance-jeunesse. 15h, la rediff, une de nos émissions piochées au hasard. 17h, 18h, on en a parlé, le Blabla Mix, programme commun aux deux antennes. Une rediffusion de Tropical Air Mix, parce qu'il est reparti aller chercher du son du côté du Congo, l'ami DJ Fonz. On le retrouvera en direct encore dans une semaine ou deux. Mais du coup, vous n'en faites pas, il y aura quand même du son Tropical Air Mix de 18h à 19h. 19h, 20h, ce sera le tour d'Amnesty International. 20h, 21h30, le laboratoire et la factory qui prendra le relais. Voilà pour notre antenne, nos antennes 102.4, 95.9 sur Radio Principe Actif. Merci à vous Frédéric Grimaud de m'avoir accompagné ce matin.
Merci.
On rappelle, samedi 30, aux ventes à partir de 18h.
18h, vidéoconférence. Repas, voilà, discussion,
c'est parfait.
Échange.
On se quitte là-dessus. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.